Salut à tous et bienvenue dans Tech Café. Nous sommes aujourd'hui le mardi 23 février 2016 et nous enregistrons l'épisode 27. Je suis Guillaume Vendée et on va vous parler dans cet épisode du Mobile World Congress 2016, de réalité virtuelle et bien sûr nos incontournables bonus. Et pour ça, j'ai autour de moi sur cette espèce de table virtuelle Cédric Tamboise et Guillaume Pogaspala. Salut à tous les deux, comment allez-vous ?
Mais fort bien, fort bien.
Fort bien, bonsoir, ravi d'être avec vous.
On a une petite nouveauté pour cet épisode. J'espère que vous allez le sentir tout au long de l'enregistrement, tout au long de l'émission. C'est le micro que l'association Tech Café, grâce au financement que vous faites sur Tipeee, a pu envoyer à Guillaume. Et donc Guillaume a derrière, devant lui plutôt maintenant, un micro professionnel pour pouvoir mettre en valeur ses propos et ses recommandations. Si vous aussi vous êtes intéressé pour nous donner un petit coup de main ou évidemment nous aider à avancer et à améliorer l'émission, vous le savez désormais, c'est sur tipeee.com/tech-café, tipeee.com/tech-café, où vous pouvez sur cette plateforme de financement participatif donc participer à la hauteur de dès 1 euro par épisode. Vous pouvez évidemment accéder aux différents paliers, aux différents niveaux de contribution, et la contrepartie très évidente, c'est donc de rapporter des fonds à l'association Tech Café qui met en place des éléments pour améliorer le podcast. Tout ça est très bien expliqué sur la page de Tipeee. Est-ce qu'il y a des nouveautés chez l'un ou l'autre d'entre vous, des petites choses à dire avant qu'on passe aux actus, Cédric, Guillaume ?
Non, rien du tout.
Alors on enchaîne tout de suite avec les news. Et dans ces actus, on va parler du Mobile World Congress 2016. Alors c'est cet événement, cette espèce de salon à Barcelone où traditionnellement on a évidemment beaucoup d'annonces, on a beaucoup de choses qui sont présentées dans l'univers des nouvelles technologies. Et puis ben il y a des petites tendances qui se dessinent, alors qui moi me sautent pas énormément aux yeux, mais je sais toi Guillaume que tu as un premier coup d'œil sur les tendances et sur des choses qui t'ont marqué là-bas.
Oui, enfin marqué, c'est beaucoup dire.
Ouais, que tu as retenu, pardon, c'est vrai.
Oui, bon, disons que le Mobile World Congress donc est pas terminé à l'heure où on enregistre, mais on a déjà vu pas mal de choses apparaître, donc ça et là. Bon, alors clairement, si tu veux, je pense que ce MWC marque une sorte de maturité pour les smartphones en tant que tels, c'est-à-dire qu'ils continuent à évoluer, chacun essaye de se démarquer un petit peu, mais globalement, si tu veux, on arrive à des niveaux de qualité, des niveaux de performance dans les smartphones qui font que c'est vraiment incrémental, quoi. Hein, les évolutions sont vraiment incrémentales, donc c'est un petit peu mieux que l'an dernier, on pourra en discuter aussi. Mais en fait, ce qui apparaît, c'est que apparemment chaque constructeur essaye de se démarquer en créant un écosystème d'objets connectés, de gadgets, j'oserais dire, qui sont donc centrés autour, enfin qui sont dans le centre en fait, et le téléphone. Et donc un petit peu à la manière de Samsung qui donc a sa ligne Gear avec sa montre connectée. Donc là par exemple Samsung justement a en marge du S7 qui est donc bah, évidemment de très très beaux téléphones. Il y a un S7 et un S7 Edge qui sont donc de très très beaux téléphones, mais qui sont donc des évolutions assez incrémentales encore une fois de ce qu'on a pour le S6. Qui a présenté la Gear 360, qui s'intègre parfaitement donc avec la ligne Gear de son écosystème. Et la Gear 360, c'est par exemple une caméra qui filme à 360 degrés, qui donc permet de faire des panoramas immersifs qu'on peut ensuite regarder avec le Gear VR. De la même manière, on a aussi chez Sony tout un ensemble de petits appareils qui vont là encore être destiné à fonctionner à la fois seul et à communiquer avec le téléphone, la nouvelle ligne Xperia. Et de la même manière, chez LG, on a aussi tout un set de petits accessoires comme un robosphère ou un casque de réalité virtuelle. Et en fait, on voit, si tu veux, arriver des écosystèmes qui sont malheureusement fermés, c'est-à-dire centrés sur une marque et fermés sur cette marque, mais qui permettent d'essayer, disons, des choses qui sont plus ou moins innovantes. Alors, on peut un petit peu lister ce qu'on a vu pour le moment, et on peut aussi essayer de voir chacun ce qui nous a le plus marqué. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un des gadgets présentés chez Sony, LG et Samsung qui vous a plus marqué ?
Alors moi, je vais assez vite écarter la question parce que non, rien m'a marqué. J'ai suivi les différents éléments. J'ai été évidemment marqué comme peut-être d'autres sur certaines photos qui ont circulé liées à certaines annonces dans certains contextes où on voit, pour pas le dire, chez Samsung que Mark Zuckerberg apparaît au nez et à la barbe de toutes les personnes qui y assistent parce qu'ils ont tous un casque de réalité virtuelle sur la goule. Il y a des choses comme ça qui m'ont marqué visuellement, mais sur les appareils et sur la tech en tant que tel, il n'y a rien, moi, qui m'a bluffé. Comme tu le dis, c'est beaucoup de l'itération et on va peut-être en reparler ensemble, mais les écosystèmes que tu cites, moi, m'ont pas vraiment... Je retiens pas ça comme étant une vraie innovation. Je retiens en tout cas la tendance que tu décris, mais je la retiens pas comme quelque chose qui me marque particulièrement. Cédric, de ton côté, il y a quelque chose, toi, qui t'a sauté aux yeux?
Ce qui me marque, c'est un peu cet esprit très 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 sectaire et très fermé à essayer de finalement courir derrière Apple, de se dire je lance un écosystème de, enfin qui, alors c'est pas tout à fait un écosystème, hein, c'est pas les premières marques qui tentent de lancer des machins qui de toute façon marcheront pas et qui seront pas mises à jour et puis dans un an n'en parleront plus, mais c'est pas la première fois qu'il y a ce type d'essai, mais cette volonté de se fermer sur une marque, voire sur un sous-segment de marque pour réserver certains accessoires à certains terminaux haut de gamme chez Samsung ou d'autres, enfin, ça s'est déjà vu et là encore, je pense que c'est la plus grosse des conneries, parce que si Apple peut se le permettre parce qu'il y a une image et qu'il y a des fanboys qui suivent derrière, même s'il y a une volonté de plus en plus d'essayer de s'ouvrir, enfin voilà, on va y arriver un jour ou l'autre, des marques, même Samsung, qui sont monstrueux en termes de part de marché, je pense, sans trop me tromper, qu'il y a assez peu de fanboys de Samsung, enfin c'est assez peu Samsung qu'on achète, même si c'est la marque qu'on retient, que le téléphone parce qu'il est joli et qu'il a un écran incurvé. Donc, je pense que c'est se priver d'un parc d'utilisateurs potentiels et donc d'acheteurs potentiels que d'ouvrir des écosystèmes de gadgets tout aussi inutiles les uns que les autres à quelques terminaux ou à une marque. Et typiquement, quand tu vois ce type de gadgets, enfin des caméras ou d'autres qui marchent, c'est des caméras qui sont relativement ouvertes, alors pas forcément ouvertes au sens de l'open source, mais qui en tout cas sont beaucoup plus interopérables ou proposent des passerelles. Enfin voilà, il y a des choses qui sont un peu plus smart que des machins qui seront finalement très orphelins très vite.
Ce qui me fait tilt d'ailleurs dans ce que vous dites tous les deux, hein, enfin on parle là de Samsung par exemple, c'est rigolo parce que je ne sais pas si vous avez vu la campagne publicitaire qui est arrivée à la télé. Alors mais sauf erreur parce que je regarde pas très très souvent la télé, mais il me semble que c'est arrivé en même temps justement que le Mobile World Congress, la campagne de pub de Samsung en tout cas en France là, qui vante non pas un produit mais justement l'univers des produits Samsung. Et il y a quelque chose d'assez déroutant dans cette publicité, et je pense qu'en fait, c'est pour ça que je parle de la pub, c'est que pour moi ça illustre bien ce que tu décris, Cédric, c'est qu'il y a ce sentiment de faire de Samsung un univers, alors qu'en fait je ne pense pas que les gens adhèrent aux appareils Samsung parce qu'ils font partie d'un univers, mais avant tout parce que ce sont objectivement, probablement en tout cas pour eux, mais pour beaucoup de monde, de bons produits. Et c'est vrai que ça me marque beaucoup et on a l'impression qu'il joue cette carte à fond. Peut-être une illustration assez forte de ce que tu décris, Guillaume, c'est peut-être le LG G5, non ?
Alors en fait, bon, on va peut-être détailler un petit peu quand même pour les auditeurs ce qu'on a vu et ce qu'on peut retenir justement de ça. Donc dans l'univers LG, on a déjà le LG G5. Alors le LG G5, il est en lui-même, c'est-à-dire même sans s'intéresser à tous ses petits compagnons, du LG Playground, comme ils disent. On a quand même un téléphone qui a l'air très très sympa. C'est-à-dire c'est un très beau téléphone d'une puissance qu'on soupçonne vraiment très importante, avec une nouvelle génération de puces dont on pourra parler par ailleurs. Mais en tous les cas, ce qui le différencie, si tu veux, ce qui différencie le LG G5, c'est un aspect modulaire qui est un petit peu innovant. Alors quand je dis un petit peu innovant, c'est parce que bon, la première chose qu'on peut donc est amovible chez le LG G5. C'est sa batterie. Ouais, c'est fabuleux. Il fallait attendre 2016 pour retrouver des téléphones à batterie amovible. Bon, ouais. On jugera ça comme on le veut, mais enfin, c'est quand même un bon point.
On peut faire une petite parenthèse peut-être pour dire que quand même, c'est loin d'être les premiers smartphones où on peut changer batterie. Justement, chez Samsung, on a quand même tous les S fer de lance qui, sauf erreur, ont leur batterie qu'on peut remplacer assez facilement. Enfin, moi, j'ai mon frère qui a, je crois, le S5. Le S5, aucun problème. Enfin, il y a pas de souci.
Par contre, le S7, c'est pas possible.
Et alors, on va revenir dessus. Mais par contre, là où c'est intéressant pour le LG G5, c'est que c'est à la fois un smartphone qui a cet esprit de conception unibody, c'est-à-dire que tu as tout d'un seul tenant en métal plutôt quali. Malgré tout, tu changes très facilement la batterie. C'est peut-être là où il y a une innovation, c'est que d'habitude, soit tu avais un téléphone avec un dos en plastique craquelant, il fallait que tu l'enlèves pour changer la batterie facilement, soit tu avais un smartphone tout bien intégré, tout super quali, mais tu pouvais pas changer la batterie.
Ouais, alors en fait, ce qui est très innovant dans le LG G5, c'est d'une part effectivement qu'il peut s'ouvrir, qu'on peut changer la batterie, mais surtout c'est qu'à la moitié en fait de ce qu'on peut changer. Le LG G5, en fait, comme tu le dis, il a un format qui est unibody et on enlève le bas. C'est-à-dire qu'on tire sur la partie basse LG et on déboîte la batterie. Et effectivement, une fois qu'on enlève le bas, on peut en changer. C'est-à-dire que le petit module qui donc est attaché à la batterie a un connecteur qui se connecte au téléphone et ce petit module peut être changé pour un autre module qui donne des fonctions supplémentaires au téléphone. Pour l'instant, il existe deux modules qui peuvent donc s'adapter sur la LG G5. Il y a un module photo qui apporte donc des boutons qui sont des boutons physiques pour la caméra, donc l'appareil photo. Donc on a des boutons pour le zoom, des boutons pour l'obturateur et on a une batterie supplémentaire en fait qui se rajoute. Et on a un deuxième module qui est un module DAC, donc qui est un module qui améliore la qualité du son pour pouvoir utiliser son téléphone sur des chaînes Wi-Fi sans rougir. En tous les cas, ça fera plaisir aux audiophiles. Toujours est-il que ces deux petits modules sont une sorte de modèle, hein, une sorte d'exemple de ce qu'on pourrait imaginer pour un LG G5, c'est-à-dire une sorte d'architecture modulaire qui fait penser dans une très large, enfin dans une mesure beaucoup plus modeste, à ce qu'on avait pour le projet ARA, c'est-à-dire c'est un tout début de modularité et peut-être d'un téléphone qui pourra durer plus longtemps parce qu'on peut changer la batterie, parce qu'on peut rajouter des fonctionnalités ou en changer. Donc c'est en ça que le LG G5 est intéressant en fait, hein, outre le fait que ce soit très certainement un excellent téléphone.
Moi, je suis en fait... Ça me met en... Alors, tu parles du projet ARA et ça me met en écho, évidemment, ce projet, comme beaucoup, beaucoup de monde. Et en fait, ça me fait me dire que c'est probablement une connerie. Je m'explique. Enfin, il y a probablement des gens que ça va intéresser, mais dans l'immense majorité du marché des smartphones, la façon dont je visualise le smartphone parfait, c'est que justement, pour moi, il remplace plein de choses. C'est d'ailleurs, je pense que vous vous rappelez bien la façon dont Steve Jobs avait marketé ça lors de la présentation du tout premier iPhone. C'est que c'est à la fois un iPad, à la fois un iPod, à la fois un navigateur internet et à la fois un téléphone. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est que justement, aujourd'hui, on se balade pas avec plusieurs appareils. Et j'ai du mal finalement à concevoir le fait que, comme c'est pas un écosystème complètement libre et ouvert, ou en tout cas aujourd'hui, où chacun peut proposer son petit accessoire, je vois pas trop finalement l'intérêt de vendre un smartphone découpé en 5 morceaux et qu'il va falloir un peu rebidouiller à chaque fois pour avoir un truc forcément imparfait au final, parce que ok, tu rajoutes un grip, t'as une grosse batterie et c'est pratique pour prendre des photos, mais c'est juste naze par rapport à un smartphone classique dans un contexte de mobilité et c'est forcément moins bien qu'un réflexe, quoi.
Disons que dans une certaine mesure, peut-être que le fait que ce soit beaucoup plus modeste que le projet ARA, c'est peut-être le gros souci en fait de ce truc-là. C'est-à-dire que la modularité, moi, dans l'idée, j'aime beaucoup. Là, c'est sûr que si ça reste fermé sur LG et qu'il n'y a que LG qui peut proposer des add-ons, déjà, ça limite pas mal le potentiel. Et puis, c'est clair qu'on ne peut pas, par exemple, augmenter la taille de la RAM, on ne peut pas changer le processeur, on ne peut pas changer l'écran comme sur le projet ARA. Donc, ça reste quelque chose d'assez figé. Et c'est vrai que ça reste cantonné à des fonctions qui seront relativement simples. Enfin, en tous les cas, on a du mal à voir ce qui pourra vraiment être vraiment révolutionnaire. Cela dit, bon, c'est peut-être un petit peu tôt pour en juger. Et dans une certaine mesure, c'est déjà bien d'essayer d'innover, quoi, parce que c'est vrai que Bon, bah, c'est quand même quelque chose qu'on avait pour l'instant jamais vu, quoi, hein, chez les smartphones, ou en tout cas, mais... pas dans un produit fini, quoi.
Ouais, ouais, tout à fait. Mais ça ressemble à l'innovation pour de l'innovation, parce qu'en fait, en cas d'usage, et c'est vraiment un sujet qui nous intéresse depuis longtemps dans Tech Café et à l'époque dans Tablette Café, c'est vraiment les usages, quoi. Et aujourd'hui, qui va, peut-être que je me trompe, et auquel cas aller déposer un commentaire, ou vous pouvez évidemment me contredire tout de suite, mais qui va acheter un LG G5 pour l'intérêt qu'apporte un des périphériques du LG G5?
Moi.
Ah,
non.
Alors Cédric.
Alors non, alors
j'ai
pas
trouvé
acheté,
ouais.
C'est ça. J'ai peut-être pas acheté le LG G5 pour d'autres raisons, mais ne serait-ce que pour la possibilité sur un smartphone dit fer de lance ou enfin en tout cas sur un bon smartphone de haut niveau de pouvoir changer la batterie, c'est juste une manière de lutter contre l'obsolescence programmée. Je prends l'exemple de une partie de l'obsolescence programmée. Je prends l'exemple de mon OnePlus One que j'utilise beaucoup et dont la batterie commence à faiblir. Je risque de devoir le changer dans les prochains mois, ça m'en bête, parce qu'objectivement il marche encore très bien, ça me suffit largement en termes de perf et j'ai rayé un peu l'écran, mais c'est pas la fin du monde. Par contre, la batterie, ça me handicap, et je sais qu'énormément de personnes qui changent leur smartphone, au-delà d'avoir cassé l'écran, c'est en général pour des batteries ou pour de la puissance. Donc ne serait-ce que pour se dire je peux renouveler la batterie à moindre coût.
Mais t'es malhonnête, Cédric. T'es malhonnête parce que quand tu regardes le LG G5, clairement l'intérêt de changer la batterie est complètement anecdotique par rapport à ce que est vraiment proposé en termes de philosophie, l'idée des périphériques. Je veux dire, encore une fois, tu prends un S5 d'il y a 2 ans, il le proposait déjà de changer la batterie. Enfin, il n'y a pas besoin de la modularité d'un smartphone pour changer de batterie. Je suis d'accord avec toi, si on peut changer la batterie, c'est très bien et ça peut être un argument en plus. Est-ce que, en dehors de cette batterie, l'idée de brancher des périphériques est quelque chose qui te fait acheter ce smartphone? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres smartphones que le OnePlus One ou le LG G5 qui permettent de changer la batterie?
Alors non, pas dans cette configuration-là. Et là, je rejoins ce que vous disiez sur le projet ARA, où effectivement, on est sur une vraie conception de smartphone à la carte, où je vais brancher, alors pas mon, enfin, si même peut-être l'écran, mais en tout cas, finalement, un smartphone comme des Lego, où je construis mon smartphone de cette manière-là. Là, effectivement, non. Moi, le seul intérêt que j'y vois, c'est de changer la batterie et de me dire, dans un an ou dans un an et demi, quand elle aura un peu faibli, je pourrais la changer à moindre coût et garder le même téléphone. Enfin, c'est le seul intérêt que je vois. Effectivement, changer un truc pour avoir 3 boutons de plus et un déclencheur, je vois pas bien l'intérêt. Bon. De toute façon,
je te comprends mieux du coup.
Bah, tu sais, le Galaxy S7, qui par ailleurs donc de Samsung et qui par ailleurs donc est un téléphone qui a l'air fabuleux, hein, qui a l'air
il est franchement chouette. Ouais.
$800, c'est du haut de gamme. Je veux dire, tout est au max. Hein, il y a tout est au taquet de toute façon. Hein, 4 Go de RAM, super écran, super processeur, enfin tout ce qu'il faut. Ben, ce truc-là, apparemment, d'après ce que je vois, n'a pas la batterie amovible, par exemple. Donc c'est quand même un petit peu fort de mettre $800 dans un téléphone et 2 ans plus tard d'avoir une batterie qui faiblit et d'avoir une expérience qui est détériorée ou carrément 3 ans plus tard de pratiquement plus pouvoir l'utiliser, quoi. Tu vois.
Alors il y a des gens qui mettent ce prix-là dans des smartphones qui ont une pomme floquée sur le dos. Hein.
Certes. Mais bon, ouais, je vois ce que tu veux dire.
Je vous suis, hein, je vous comprends complètement. Cela dit, et c'est très bien, Cédric, que tu fasses partie de ces gens qui gardent. Je crois d'ailleurs que tu avais un Nexus 4 qui t'a duré super longtemps, il me semble, de mémoire, ou peut-être un Nexus 5, je sais plus, mais. Je trouve à côté de ça que de toute façon, batterie changeable ou pas, j'ai pas l'impression que c'est ça qui va faire que les gens vont garder leur smartphone plus longtemps. En tout cas, c'était pas ça. Peut-être qu'aujourd'hui c'est moins le cas, mais je suis à peu près persuadé qu'il y a 2-3 ans, c'est pas parce qu'on pouvait changer une batterie qu'on n'avait pas envie de changer son smartphone, quoi. Vous voyez ce que je veux dire?
Ouais, on parle d'appareils à $800 quand même, enfin, ou même 300, 400 ou 500. Enfin, moi j'ai des amis
n'achètes pas un smartphone à ce prix-là pour qu'il te dure plus longtemps, paradoxalement.
Non, c'est ça qu'il faut. Enfin, il faut quand même être conscient d'un contexte économique qui est pas simple. Moi j'ai quand même des amis qui ont tout à fait le même niveau de vie que moi, donc on n'est pas à plaindre, et qui mettent jamais plus de 200 € dans un smartphone. Et même 200 €, c'est l'investissement de la décennie. Donc oui, il y a des geeks comme toi et moi qui achetons et qui dépensons des sommes complètement faramineuses dans des smartphones, beaucoup trop. Mais Apple en vend bien, donc je pense qu'on n'y a pas que toi et moi. Mais sur le fond, je pense que ça a du sens de se dire je rajoute un an de vie. Effectivement, il va pas faire 10 ans ton smartphone. Enfin, en vrai, de toute façon, il y a d'autres composants qui lâcheront, les connecteurs s'oxyderont et puis l'écran se rayera. Mais Le fait de pouvoir se dire, finalement, pour 50, peut-être 100 dollars, en gros, pour un tiers ou un quart du prix du smartphone, je peux lui prolonger la vie de plusieurs mois ou de plusieurs années, moi, je trouve que c'est franchement pas déconnant, quoi.
Bah, c'est, même, c'est parce que c'est même beaucoup moins que ça, en fait. Hein, une batterie de smartphone, si tu te débrouilles bien, c'est pas, vraiment pas très cher. Après, est-ce que, justement, il y a aussi cet effet que les smartphones sont devenus, globalement, suffisamment bons ? C'est-à-dire qu'on disait, justement, que les smartphones de cette année sont superbes, ils sont un petit peu plus puissants que les smartphones de l'an dernier, qui étaient aussi superbes. Et, dans une certaine mesure, est-ce que, justement, pour que les gens changent de smartphone, il faut pas leur proposer des choses qui sont beaucoup plus innovantes, qui, voilà, donc il faut vraiment que les constructeurs se différencient, et puis quitte à garder leur smartphone, eh bien qu'ils puissent quand même acheter des accessoires, tout simplement, parce qu'ils risquent de les garder leur smartphone, parce que la différence, honnêtement, la différence entre LG G4 et LG G5 en termes de performance et d'écran, elle n'est pas violente, hein. C'est LG G4 a déjà un écran sublime, des performances qui sont largement suffisantes pour la quasi-totalité des usages. Bon, pourquoi passer un G5 ? Ben peut-être justement parce qu'il a des accessoires, il a une batterie amovible, il a un petit robot tout boule que tu peux commander avec, qui peut te faire téléprésence, parce que bon, c'est vrai qu'on n'a pas parlé en détail des accessoires, justement, de ces espèces de trucs du LG Playground, mais bon, il y a des trucs marrants. Bon, il y a un casque de réalité virtuelle, parce que tout le monde doit en faire un, hein, apparemment, ben c'est devenu, c'est parti. Pourquoi pas, il y a aussi une caméra à 360 degrés, parce que tout le monde doit en faire une, apparemment, il faut bien le reconnaître. Et puis, il y a un petit robot de téléprésence. Alors, d'après ce que j'ai compris, en tout cas, c'est un petit robot tout boule, qui est tout mignon, qu'on peut télécommander avec son smartphone, mais qui peut sans aucun doute être télécommandé via le réseau aussi, et qui possède une caméra, et qui donc probablement peut servir en fait d'instrument de surveillance, par exemple, ou de téléprésence quand on est, par exemple, par le réseau, vous pouvez mettre la boule chez votre mamie et aller comme ça, aller voir votre mamie virtuellement avec votre LG. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense que c'est intéressant.
C'est là où on en vient à l'échange qu'on avait au début sur le sujet, c'est que ce type d'accessoires peut, enfin d'accessoires en tout cas d'éléments d'écosystème a complètement du sens. Enfin, une caméra 360, ça peut permettre de faire de l'alarme intelligente et de faire un pas vers la domotique. Un robot de téléprésence dans une logique de dépendance et effectivement de personnes âgées à la maison ou même d'alarme ou de surveillance rigolote, ça peut avoir du sens. Mais un machin qui n'est pas pensé comme un écosystème durable, mais qui se, enfin je me répète, hein, mais qui ne s'ouvre qu'au LG là parce qu'on parle de LG. C'est une bêtise parce que.
Je suis d'accord. C'est le principal grief que j'ai vis-à-vis de tout ça. En fait, c'est pas vraiment que c'est nul ou pas forcément innovant, bien que souvent on ait déjà vu ça ailleurs sous une autre forme. Mais bon, c'est surtout effectivement que c'est spécifique à une marque, que c'est complètement fermé et en tout cas a priori, hein, autant qu'on le sache. Et ça, par contre, c'est clair que c'est pour moi, c'est vrai que c'est complètement rédhibitoire, quoi.
On est d'accord. On a parlé du S7 évidemment. Bon, on va pas redétailler. C'est effectivement un très bon smartphone très haut de gamme.
Et le S7 Edge.
Voilà. Par contre, alors du coup, c'est hyper intéressant parce que on va en faire une petite parenthèse là-dessus. Le S7 Edge, au-delà du fait que c'est très compliqué à dire. Moi, j'ai un collègue qui a le S6 Edge et il faut reconnaître que c'est un bijou, c'est magnifique. J'en démords pas, par contre, depuis le premier jour, je trouve ça chiant. Il y a en fait une partie de l'écran qui est grosso modo ou déformée ou inutilisable. C'est très sympa pour plein d'interfaces, mais pour beaucoup de choses, au-delà du fait que c'est joli, je vois pas du tout l'usage. Mais bon, voilà. Donc, évidemment, il persiste avec le S7. Et encore une fois, c'est très quali, c'est très beau. Mais je trouve vraiment qu'à l'usage, c'est gogol d'avoir une partie de l'écran qui est courbée et qui est du coup déformée. Mais bon.
Enfin, l'interface d'Android n'est pas prévue pour ça. Hein.
Non, c'est vrai.
Mais même n'importe quelle interface ne sera pas prévue pour ça, je trouve. Enfin, je sais pas. Bon, bref.
De toute façon, c'est clivant puisqu'il y a toujours le S7 normal, le S7 Edge.
Ouais, tout à fait.
Donc ils savent très bien que c'est clivant comme design.
Absolument, absolument. Mais je fais partie de ceux qui sont pas emballés. La Gear 360, Guillaume, est-ce que tu veux nous en toucher un petit mot ?
Bon, en fait, pas vraiment. Enfin, disons que voilà, c'est marrant parce que c'est une petite caméra qui ressemble à une webcam des années 90, hein, faut pas se mentir. Ouais. Mais bon, il y a quand même 15 mégapixels, ça capture des vidéos en 3840 par 1920.
Deux fois surtout, 15 mégapixels en fait.
Tu veux dire, oui, deux fois 15 mégapixels, tout à fait, oui, parce qu'elle a un œil devant, un œil derrière, voilà. Deux fisheye, et grâce à ces deux fisheye, elle peut prendre des panoramas 360 degrés que vous pouvez ensuite regarder sur votre téléphone en scrollant, tout simplement, ou bien avec votre Gear VR pour y être, quoi, tout simplement. Alors, je précise que c'est en aucun cas quelque chose de nouveau, hein, puisque je suis allé pas plus tard qu'avant-hier, ou hier, je sais plus, à Boulanger, et j'ai vu des caméras comme ça qui étaient, alors je sais plus comment elles s'appellent, c'est la Ricoh Theta, je crois,
ouais.
Qui est en vente à 400 euros à Boulanger, qui fait très exactement la même chose. Donc, c'est pas du tout quelque chose de particulièrement nouveau. Ce qui est rigolo, c'est que tous les constructeurs commencent à présenter ce genre de truc en conjonction avec leur casque de VR. Bon, voilà, on sent une petite mode comme ça émerger. Bon, pourquoi pas ? Moi, je trouve que ça peut être vraiment très sympa. Je fais partie de ces gens qui trouvent ça sympa. Alors bon, il y a certainement plein de gens qui trouvent ça complètement gadget. J'accepte. Hein.
Non, je pense... Enfin, on trouve ça gadget tant qu'on n'a pas assisté à un usage très concret. Et sans aller parler de casque et de réalité virtuelle, les caméras 360, c'est pas inintéressant. Il me semble que j'en ai parlé dans le dernier épisode d'ailleurs. Mais il y a des vidéos sur YouTube, moi, que j'ai trouvé complètement fascinantes, où le mec te fait visiter son garage. Il t'explique un peu comment il fait son bricolage et pendant qu'il t'explique, il pose la caméra et donc pendant qu'il parle, eh ben tu peux être mal poli, tu peux lui tourner le dos et aller regarder ce qui se passe derrière toi et c'est hyper confortable. Il y a quelque chose de très immersif. Je pense même qu'il y a des usages typiquement professionnels, style Le Bon Coin. Au lieu de diffuser une photo, de diffuser une vidéo 360 du produit que tu vends sur Le Bon Coin, ou d'ailleurs du bien immobilier, je pense que ce serait top, quoi. Ce serait vraiment génial. Donc je pense qu'il y a des super usages.
Hein, ouais. Ouais, tout à fait. Le seul regret que j'ai, mais alors c'est peut-être que j'ai pas, mais j'ai l'impression que c'est uniquement 2D, c'est-à-dire que ça fait pas des panoramas en relief.
Et ah non, il n'y a pas de relief.
Dommage. Je trouve ça dommage parce ouais. qu'avec un Gear VR, on pourrait restituer le relief et ça pourrait être encore mieux. Mais
bon. ça fait. Enfin, là, ce que tu dis, c'est peut-être ce à quoi serviront les appareils d'interface dont on a déjà parlé, là, mais qui capturent en 3D autour de nous. Mais là, on est d'accord, si je ne me trompe pas, c'est du Street View à la sauce de tout un chacun, non si je
Oui,
me
tout
pas.
À fait. Mais enfin, il suffirait de doubler le nombre de lentilles pour avoir une vision stéréoscopique. Hein.
Ah pardon, d'accord, je comprenais pas.
Tu mettrais deux, au lieu d'avoir juste une devant, une derrière, t'en mets deux devant, deux derrière, avec un petit espace entre les caméras, et tu obtiens quelque chose en relief. Ouais. Hein, c'est juste deux fois plus cher. Mais
bon, au stade où on en est, on paye des S7 à plus cher que ça. Ok, alors un petit mot autour de Sony aussi, nos copains de chez Sony. Alors au-delà du fait que je comprends toujours pas leur fonctionnement d'un point de vue marketing sur le fait qu'ils sortent plus de produits, j'ai l'impression que Samsung, ils en deviennent peut-être même moins lisibles. Et alors leur marque, la Xperia, moi j'en peux plus, je suis un peu paumé. Est-ce que tu peux nous éclaircir là-dessus aussi, Guillaume ?
Bah, en fait, étrangement, bon, enfin non, c'est pas du tout étrange en fait, hein, puisqu'ils étaient à l'Xperia Z, et comme ils pouvaient pas aller plus loin, bah, ils sont revenus en arrière, on a maintenant l'Xperia X. C'est bien parce que du coup, maintenant, ils ont quand même 25 possibilités pour faire des nouveaux modèles, c'est bien. Donc ils ont Xperia X, donc, je sais pas, ils sautent un truc, Y, je sais pas pourquoi. Xperia X, je sais pas, peut-être leur
ouais,
rappel
peut-être
du X,
que c'était
tu vois.
Moche, ouais.
Je sais pas trop.
Déjà que c'était compliqué à dire.
Ouais, bon, on s'en fout. Enfin, dans tous les cas, il y a trois donc téléphones qui ont été présentés. Alors, il y a le Xperia X, apparemment, qui s'appelle le X, quoi. Il y a le X Performance et le XA. Alors, le XA, ça a l'air d'être un truc un petit peu plus petit, milieu ou entrée de gamme. Le Performance, bon, ben, comme son nom l'indique, c'est Performance, donc c'est le flagship. Et le X Normal, qui est un petit peu entre les deux, j'ai l'impression. En tout cas, voilà, on a trois téléphones pour l'entrée, le milieu et le haut de gamme. Et on a tout un, je sais pas, toute une espèce de bordel de trucs connectés. Alors je dis bordel parce que, pour être tout à fait honnête, c'est pas complètement clair ce qui est, ne serait-ce que fonctionnel pour le moment, en fait, hein, dans l'écosystème de Sony, puisqu'il y a le Xperia Ear pour les oreilles, le Xperia Eye
qui est l'oreille
pour les yeux,
le
Xperia Projector, le Xperia Agent, et tout ça, qu'est-ce que ça fait ? Alors, le Xperia... Ear, c'est une oreillette Bluetooth. J'ai pas encore compris quelle était la différence avec une oreille Bluetooth normale.
Bon,
très honnêtement, je sais pas trop quoi. Tu peux parler à ton téléphone avec, c'est-à-dire que peut-être que c'est ça. C'est-à-dire que avec une oreillette Bluetooth, en fait, vous déportez le micro du téléphone via votre truc, quoi. Mais je sais pas si vous pouvez faire OK Google par l'oreillette. Est-ce que tu peux faire OK Google
par
l'oreillette ?
Je sais pas.
Parce que là, apparemment, tu peux.
Parfois, si. Hein. Si. Ça dépend de l'oreillette, mais moi, j'en ai déjà utilisé qui permettait de démarrer de la reconnaissance vocale.
D'accord. Vous en foutez, mais on peut faire OK Siri avec la montre.
Bon, bah écoute, alors ça, alors, il n'y a aucune innovation, je sais pas. Parce que bon, voilà, en gros, c'est une oreillette Bluetooth qui permet d'utiliser. Enfin, à laquelle tu peux parler et qui te répond. Bon, évidemment, c'est le téléphone hein, qui traite les données. Quoi. Donc, je sais pas trop. Donc, c'est l'Xperia Ear, voilà, puisque les oreilles. L'Xperia Eye, c'est une caméra 360, encore. Qu'on porte sur soi et qui est une sorte de life logger. Alors, c'est des trucs qu'on a déjà vus un petit peu avant. Hein. C'est-à-dire, c'est une caméra qui filme votre vie et vous en donne une sorte de résumé que vous pouvez poster sur Facebook tout de suite. C'est absolument merveilleux. Et la différence donc, avec les autres life loggers, c'est qu'elle est capable de savoir quand il se passe un truc cool. Bon, me demandez pas exactement comment. Alors apparemment, c'est par, je sais pas, le bruit, la reconnaissance de visage, que sais-je, je sais pas. Ouais. Donc si ça vous, voilà, si ça vous fait kiffer d'enregistrer votre vie comme ça tout le temps et d'en avoir un digest à la fin de la journée, bon ben pourquoi pas. Alors, il y a aussi un truc que moi j'ai trouvé très rigolo personnellement, même si c'est là encore, c'est pas très bon. C'est le Xperia Agent. Qui est une sorte de Amazon Echo. Donc, on a parlé d'Amazon Echo, puisque c'est une sorte de borne comme ça, qui vous écoute et qui vous répond, tout simplement, via évidemment les data centers d'Amazon. Ben là, l'Xperia Agent, c'est pareil, sauf qu'il est beaucoup plus mignon, parce qu'il a deux gros yeux et qu'on dirait Wall-E. Et rien que pour ça, je trouve sympa. Bon, à voir s'il est ne serait-ce que un petit peu plus, enfin, je sais pas, ne serait-ce qu'utile, quoi. Cela dit, il inclut un projecteur qui projette donc des petites commandes avec lesquelles vous pouvez interagir. Donc, non seulement vous pouvez lui parler, mais vous pouvez aussi interagir via des choses qu'il projette sur la table. Donc, à voir. Bon. Et le dernier truc qui t'a apparemment le plus intéressé, j'ai l'impression, c'est Guillaume, c'est le projecteur.
Ouais, Xperia Projector. Honnêtement, sur le papier, ça a l'air pas mal.
Ça, c'est cool, ça.
Alors, voilà, ça a l'air cool. Alors, c'est un projecteur short throw, c'est-à-dire que vous pouvez placer très proche d'un mur et qui fait une image, alors évidemment de taille relativement modeste, mais enfin, qui fait, je sais pas, là, de ce que je vois, si vous le mettez contre un mur, à quelques centimètres d'un mur, il vous fait une image qui doit faire quelque chose comme 20 pouces.
Ce qui est vachement
bien. Ce qui est déjà pas trop mal, effectivement. Ce qui est intéressant, c'est que cette image, elle est interactive, c'est-à-dire qu'en fait, la surface sur laquelle il projette l'image devient tactile, en quelque sorte. En fait, dedans, il y a un capteur laser qui analyse la position de vos doigts et qui est capable de savoir où vous appuyez, quoi. Alors, ça me paraît être très futuriste.
Et puis pas du tout réaliste du truc final, parce que sur les photos qu'on voit, on voit bien que l'image, elle est projetée au-dessus du doigt. Enfin, il y a un truc bizarre, quoi.
Voilà, il y a des trucs qui sont un petit peu...
Ça
voilà,
semble
déjà,
un peu à du Photoshop, mal...
Je sais pas trop, tu vois, comment le projecteur sait que vous appuyez sur la surface ou pas.
Alors ça, ah oui, bah, normalement ça c'est, enfin, je parle
la parce que la position du doigt pour la déterminer c'est possible, savoir si vous appuyez ou pas c'est plus délicat déjà.
Alors il y a des tableaux hein, qui font ça, moi on a un tableau au boulot, un projecteur qui permet de capter le fait qu'on appuie sur le mur ou pas. En fait.
Oui, mais ça c'est parce que tu utilises un stylo qui est relié.
Non, même avec le doigt, ouais, même avec le doigt. Ouais. Par contre c'est cool. Pas très très réactif, mais ça fonctionne.
Ah d'accord, voilà, bon. Bah, alors,
enfin, je peux dessiner avec, hein, par contre je peux dessiner des bonhommes.
D'accord. D'accord. Bah donc voilà, donc c'est ce type de truc là. Alors, à quoi ça va servir très précisément? Qu'est-ce qu'on va pouvoir envoyer? Est-ce que c'est un système à part entière? Est-ce que c'est un annexe du smartphone? C'est très 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 flou. En fait, c'est un petit peu le problème de la présentation de Sony, c'est que c'est assez futuriste, mais finalement très 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 flou. Donc, bon, difficile de dire si ça va aboutir à des produits qui auront du succès, quoi.
Et on comprend rien, parce qu'en fait, est-ce que c'est relié à un smartphone ou pas? Enfin, je sais pas, c'est bizarre, non? Enfin, vous avez compris, vous? Non?
Moi, dans ma tête, c'est... Enfin, non, je l'ai pas compris, mais effectivement, ça fait très Minority Report ou certaines choses qu'on pouvait avoir sur des miroirs connectés dans la salle de bain qui t'affichent les météos.
Mais donc, c'est indépendant. C'est ça que je veux dire. Est-ce que c'est indépendant?
À mon avis, non.
Non,
en fait, je pense que ça va être relié au smartphone. Enfin, sinon, ça va coûter un bras si tu dois avoir tout l'équivalent du smartphone dedans, grosso modo, RAM et compagnie et processeur et connexion internet. Enfin, je pense pas. À mon avis, c'est du connecté. Mmh. Je pense que c'est pour de la mini projection professionnelle ou, enfin, tu vois, je vois pas bien l'usage autrement.
Ouais, bon, à voir, à suivre en tout cas.
Mais c'est cool.
Ouais, c'est cool. Enfin, sur le papier, c'est cool en tout cas. Après, à voir dans la réalité. Dans la famille des trucs qui ont l'air cool sur le papier, mais qu'il faudra qu'on voit dans la réalité, il y a le MateBook Alors j'ai... Pardon, le mailbook, le livre pour les hommes, le mailbook.
Non. Le matebook.
Ah, c'est mate alors.
Ouais, le livre pote.
Je croyais que tu me reprenais.
Le livre mate.
Alors, est-ce que c'est un concurrent de la Surface, de l'iPad Pro, du MacBook Air? C'est un ordinateur? C'est une tablette? Qu'est-ce que c'est, Guillaume?
C'est tout ça, c'est pour les commander tous, voilà, c'est tout. Donc globalement, c'est vraiment une sorte de concurrent à la Surface Pro, complètement en fait. Hein. C'est un PC déjà sous Windows 10 qui a des composants qui sont plutôt haut de gamme et qui inclut un stylet, un clavier détachable, donc sous forme de smart cover, enfin ça ressemble beaucoup à une smart cover. Le stylo lui-même, en fait, c'est un accessoire qu'on peut acheter à part et qui gère 2048 niveaux de pression, donc qui a l'air assez sympa. La tablette fait 12 pouces, elle est équipée USB type C. Bon, elle pèse quelque chose comme 600... je sais plus. Bon, donc j'aurais tenté de dire des conneries. En tout cas, c'est un écran 12 pouces, donc 2160 par 1440, donc c'est voilà, de très belles résolutions. On peut dire que clairement c'est un truc qui est destiné à concurrencer la Surface Pro, puisque ça coûtera 700 $ ou 800 €, quoi. Donc voilà, c'est encore M3, donc voilà, c'est vraiment complètement la Surface.
Et par contre, pas le même prix qu'une Surface, si je me gourre pas trop, j'ai plus en tête tous les prix. Mais par contre, en termes de design, on est d'accord que le produit ressemble quand même grave à un iPad Pro.
Carrément.
Ouais, c'est vrai, ouais, tout à fait.
C'est plus ça qui
dans la taille d'ailleurs même aussi. Ouais.
Avec le petit stylet. Parfait. Un dernier mot, Cédric, sur le Mobile World Congress.
Oui, parce qu'on parle régulièrement de batterie, alors c'est plutôt dans la chronique des composants, mais dans les petits trucs qui ont été annoncés, c'est Oppo qui annonce une batterie forcément un chargeur et une batterie qui permettrait de recharger très très vite des batteries, donc de l'ordre de 15 minutes pour une charge complète, ce qui peut être intéressant quand on a la batterie qui pêche, comme on en a parlé tout au début. Alors c'est pas nouveau sur le principe, d'autres ont essayé de le faire, par contre là ce qui est nouveau, et Guillaume pourra confirmer sur la partie technique beaucoup mieux que moi, c'est tout ce qui est, en fait c'est une charge basse tension, donc qui normalement devrait moins abîmer la batterie qu'une charge haute tension qui pourrait vite la pourrir. Je dis pas de bêtises, Guillaume?
Non, enfin effectivement, c'est vrai qu'au plus on force dessus, au plus au plus la tension est forte, effectivement, au plus on a tendance à dégrader les électrodes. Ouais.
On a quelque chose qui anime beaucoup Guillaume. On l'a entendu.
Super VOOC.
Super VOOC.
Ouais, le nom est génial déjà.
Le Super VOOC. Et de manière générale, quand même, on l'a dit à plusieurs reprises, hein, dans plusieurs épisodes, sur plusieurs sujets, mais le nom des produits est complètement imbitable de manière générale. Hein. Et encore l'autre jour, j'ai un collègue qui m'a dit qu'il s'était acheté un ordinateur, je ne sais plus ce que c'est. C'est un portable qui se transforme en station puissante et tout. C'est le. Je me rappelle plus le nom, c'est une suite de caractères qui a pas de sens, bref. Parmi les sujets qui animent Guillaume fébrilement, et lui il clique, je suis sûr qu'il a des Google alertes et que fébrilement il va voir les nouvelles qui arrivent dessus en espérant un jour pouvoir garnir son salon, c'est la VR, et sur le domaine de la VR, il y a des choses qui se passent encore et toujours. Guillaume, qu'est-ce qui se passe?
Des catastrophes.
La réalité virtuelle, hein, pour ceux qui suivent pas.
Oui, pardon, merci Cédric, c'est important de repréciser. VR, Virtual Reality, réalité virtuelle.
Bon, alors, ouais, mais justement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe encore une catastrophe, quoi. Non, encore une douche froide, enfin, même si on s'y attendait plus, hein, quand même, maintenant, mais alors, j'ai déjà exprimé ma déception.
Ton désarroi.
Mon désarroi, exactement, c'est tout à fait le mot. Vis-à-vis du prix assez élevé de l'Oculus Rift, qui est beaucoup plus élevé en fait que ce que tout le monde imaginait, j'ai l'impression, même pas que moi. Et bon, il y a donc effectivement le deuxième ténor de la réalité virtuelle sur PC, c'est HTC et Steam, donc avec son Steam VR, son HTC Vive. Et le HTC Vive, le problème, c'est qu'il est 200 $ plus cher que l'Oculus Rift,
toujours
c'est-à-dire 800 $. Alors, c'est vrai que...
Du coup, c'est pour faire passer l'Oculus Rift comme quelque chose de pas cher.
Ouais, alors ça, c'est... Oui, c'est pour te dire. Alors, le truc, c'est que en plus, bon, il y a plus de choses, si tu veux, dans un HTC Vive, pardon, que dans un Oculus.
Ah.
Quand vous achetez pour 200 $ de plus un HTC Vive, vous avez le casque qui, lui-même, est un petit peu plus sophistiqué puisqu'il a une caméra, en fait, sur une caméra qui vous permet de voir le monde réel à la demande dans votre casque de réalité virtuelle, ce qui peut être quand même assez pratique. Et il y a des capteurs qui vous permettent, enfin les capteurs que vous mettez dans la pièce, hein, parce que bon, on a peut-être déjà parlé, mais le gros truc qui différencie l'Oculus Rift du HTC Vive, c'est que le HTC Vive est localisé en 3D dans un espace virtuel qui est votre pièce. En fait, vous mettez des capteurs dans la pièce et ensuite le casque la position et l'orientation du casque sont lus par ces capteurs de manière extrêmement précise, ce qui vous permet de vous balader dans un espace virtuel très très bien rendu, quoi. Donc ça, évidemment, bah, c'est sans doute pas gratuit, hein, de mettre ces capteurs dans la boîte. Et en plus, vous avez deux manettes, alors que l'Oculus Rift se contente d'une manette Xbox One qui coûte pratiquement que dalle à fabriquer, hein, faut pas se mentir. Donc là, vous avez deux contrôleurs spécifiques, dont un pour chaque main, hein, qui sont donc destinés spécifiquement à ça, et c'est là encore très important, pour matérialiser vos mains dans l'espace virtuel. Donc effectivement, ça, d'un point de vue matériel, il y a plus de choses et c'est un petit peu plus sophistiqué un HTC Vive qu'un Oculus Rift. Que ce soit plus cher, c'est donc pas très étonnant. Le problème, c'est que comme l'Oculus Rift était déjà très cher, le HTC Vive est encore plus cher et ça commence vraiment à faire beaucoup. Alors, je rappelle que tout ce beau matériel ne sert strictement à rien si vous n'avez pas un PC très puissant en plus, à mettre au cul. Hein, parce que il faut un PC qui soit capable d'envoyer à des très hautes fréquences, avec une vitesse de rafraîchissement très élevée, pour pas qu'il y ait de lag, pour pas que vous ayez de problèmes. Il faut quand même donc des cartes graphiques très puissantes, ce qui coûte assez cher, des processeurs très puissants, etc. Donc, en plus des $800 du Vive, bah, il faut compter au moins 1 000 € pour avoir un PC assez puissant, et encore je suis gentil, pour avoir un PC assez puissant pour utiliser soit l'un soit l'autre casque. Donc globalement, c'est vraiment très cher, et je pense que ça va, comme tout ce que j'ai dit sur l'Oculus reste valable, quoi, hein, c'est-à-dire que je pense que c'est trop cher pour que les gens adoptent ça de manière... disons massive, ou en tout cas même significative. Ça va rester un truc de niche pendant encore vraiment très longtemps, et le vrai salut de la VR, c'est les petits casques qu'on utilise avec les téléphones mobiles. Donc j'en parlerai donc dans mes bonus là, puisque j'ai eu l'occasion de tester, enfin d'acheter même un casque Omido, qui est un casque pour téléphone. Et ce casque Omido, finalement, pour peu que vous ayez un téléphone mobile de bonne tenue, il vous donne une expérience qui est tout à fait correcte, quoi. Donc en fait, voilà, je suis un petit peu déçu, parce que je trouve que ça risque de poser vraiment problème pour la vente de ces casques, ça risque de poser vraiment problème pour fédérer les développeurs autour de ces casques ou autour de la réalité virtuelle en tant que telle. Et ça, c'est le plus grave, je pense. Et du coup, c'est quand même vraiment, vraiment décevant. Bon, maintenant, peut-être qu'il va quand même s'en vendre. Voilà, peut-être que les gens sont riches et qu'il va quand même s'en vendre beaucoup et que ça va quand même décoller. Mais bon, de mon point de vue, c'est quand même compromis, quoi.
Cédric, on t'a pas souvent entendu parler, je crois, de la réalité virtuelle, si je me trompe pas. Comment tu perçois tout ça avec ces prix astronomiques?
Avec les prix, je rejoins complètement, c'est une bêtise. Alors après, c'est tout le problème de la R&D, hein. Quand on se lance, on investit beaucoup, on en avait parlé dans le dernier Tech Café, c'est valable avec plein de marques qui s'essayent à lancer des produits. Et puis, enfin, on le voit par exemple sur la voiture électrique. Les premières voitures électriques coûtent très cher parce qu'il n'y a pas assez de monde qui l'ont acheté. C'est un peu le système qui se mord la queue au-delà des, enfin, il faut démarrer, en fait, toute l'industrialisation. Donc, sur le prix, c'est complètement stupide d'un du marché. Après, je ne sais pas s'ils ont vraiment le choix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui assumerait de faire un casque de réalité virtuelle en perdant de l'argent, ou en tout cas de le vendant un peu comme moins de plus, finalement, au ras des pâquerettes?
Je suis tout à fait d'accord, mais tu vois, le problème aussi, j'ai l'impression, c'est que les deux constructeurs n'ont pas voulu faire de concessions. Alors, et c'est vrai que techniquement parlant, c'est pas complètement évident de faire un casque de réalité virtuelle. Il y a plein d'électronique dedans, il y a des écrans, tout ça. Le problème, c'est qu'ils auraient probablement dû faire des packs, avec des packs haut de gamme avec tout, et des packs moins chers avec des choses beaucoup plus... peut-être des packs d'entrée de gamme, parce que bon, on se souvient quand même de la PlayStation 3. La PlayStation 3, c'était une machine très puissante quand elle est sortie, hein. C'est une machine qui était marketée comme étant une sorte de super ordinateur à votre service dans votre salon. Il n'y avait pas eu de concession technique, elle était vendue 700 €, et elle s'est juste pas vendue jusqu'à ce que le prix baisse de 100 ou 200 €, quoi. En fait, il n'y a pas de secret. Hein. C'est-à-dire, la 3DS, c'était pareil d'ailleurs. Hein. La 3DS, quand elle est sortie, était trop chère. Elle ne s'est pas vendue jusqu'à ce que son prix perde, je ne sais pas, quelque chose comme 30%. Donc, il y a un prix pour chaque chose. Et je pense que le prix d'un casque VR, bah, ce n'est pas 800$. Quoi. Je ne pense pas vraiment.
De toute façon, ça ne pourra que baisser.
Mais on parlait d'usage, clairement, le prix est lié à l'usage et à la valeur que tu retires, enfin, la valeur réelle ou la valeur ressentie. Un smartphone, on est prêt à mettre beaucoup d'argent, en tout cas certains sont prêts à mettre beaucoup d'argent, parce que les usages sont évidents et que c'est devenu un objet tellement du quotidien et presque tellement indispensable, malheureusement, on peut se dire, voilà, un casque de VR juste pour faire mumus 3 minutes avec des jeux, ou parce qu'il y en a très peu qui seront compatibles, enfin, ou pour acheter un appartement une fois dans une vie, c'est un peu light, quand même, comme et donc, mettre 800 dollars pour ça, ça justifie beaucoup moins.
Pourtant, ça continue à innover. D'ailleurs, il y a un élément qui a retenu l'attention de certains au Mobile World Congress encore, Guillaume, c'est que absolument, là, on va pouvoir faire un petit peu un focus sur certaines zones. C'est assez bluffant, d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous en dire plus, là aussi? On met le casque et qu'est-ce que ça apporte de plus, cette technologie-là?
Alors, c'est The Eye Tribe qui a revisité un casque Oculus Rift. Alors, The Eye Tribe, c'est une entreprise qui vend des oculomètres. Je dis bien oculomètre, et pas rien d'autre. Donc, qu'est-ce que c'est un oculomètre? C'est un dispositif qui fait du eye tracking, c'est-à-dire qui repère la position de votre regard, en fait, hein, dans un certain cône, quoi, où vous mettez
le détecteur.
Ça fait pas mal, ça, voilà. Ça fait pas mal, c'est pas du tout invasif. Bon. Et en fait, iTribe donc vend ces capteurs-là qui existent depuis très longtemps en fait, hein, mais ils les vendent à un prix qui est abordable par tout un chacun. D'ailleurs, ouais, c'est pour te dire, j'en ai un.
J'ai
j'ai un iTribe SDK.
Ça tire à quoi?
Bon, j'ai fait mes muses avec en fait.
Pour la programmation.
Oui, c'est un SDK, c'est pour bon voilà, je fais mes muses avec. Et donc effectivement, ça se présente sous la forme d'un une petite barre qui ressemble un petit peu à un sensor Wii, hein, si vous voyez ce que c'est. Et ouais, vous le mettez donc sous l'écran de votre PC, ça repère exactement où sont vos yeux. Alors la précision est pas pixel perfect, ça remplace pas une souris, hein, surtout pour moi qui ai des lunettes apparemment qui sont pas tout à fait compatibles, mais enfin bon bref. Toujours est-il que voilà le principe, c'est-à-dire suivre où vous regardez. Et le capteur regarde vos yeux et sait où vous regardez. Alors pourquoi c'est très important en VR, à mon avis, pourquoi à mon avis c'est vraiment quelque chose qui manque à la VR et qui devra de manière quasi certaine être implémenté à l'avenir dans les prochains casques, c'est tout simplement parce que quand vous regardez une scène en réalité virtuelle dans un casque, vous avez deux images qui sont affichées, une par œil, et évidemment, comme quand vous allez au cinéma, le point, c'est-à-dire la mise au point, elle est faite à un endroit fixe. Tout simplement parce que l'ordinateur ne sait pas où vous regardez. Donc en fait, la mise au point, elle est faite, bon, bah, si vous êtes dans un FPS, là où il y a le réticule visé, mais sinon, c'est bien difficile de savoir qu'est-ce que vous regardez et comment faire le point, comment faire évoluer les deux images pour le mettre pour que la scène se comporte comme la réalité, quelque part. Donc il y a deux volets à l'oculométrie pour la VR. D'une part, il y a ce truc-là, c'est-à-dire que grâce à un oculomètre bricolé, The Eye Tribe a réussi donc à intégrer cette fonctionnalité dans un Oculus Rift, et du coup, l'ordinateur est capable de faire le point, comme en réalité, là où vous regardez dans un jeu vidéo. C'est-à-dire que vous regardez pas quelque chose de flou, parce que l'artiste a décidé que vous devriez regarder ailleurs à ce moment-là, quoi. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'important, je pense, pour le confort en fait de la réalité virtuelle. Mais il y a encore quelque chose d'autre qui est encore, à mon avis, beaucoup plus important pour ça, c'est que si vous savez où l'utilisateur regarde, vous pouvez concentrer la totalité de la puissance de calcul là où il regarde et moins ailleurs. C'est-à-dire faire exactement, pour tenir compte en fait de la manière dont l'œil fonctionne, puisque votre œil est composé donc d'une rétine, mais cette rétine, elle est en HD, en haute définition, que sur une toute petite partie, que là où vous regardez. En fait, là où porte votre regard, la résolution est très très élevée, mais partout ailleurs, la résolution est très très faible. Et l'image, elle est reconstruite par votre cerveau. Mais en fait, vous avez de la HD uniquement point par point, là où vous regardez, et c'est tout. Et l'impression complète de détail d'une scène, elle est virtuelle en fait. Dans votre esprit, elle est créée par votre cerveau. Et on peut exploiter ça sur un ordinateur en se disant que on va rendre de manière très très élevée avec un excellent niveau de détail là où vous regardez, Et le reste, on peut le rendre à un niveau détail très inférieur, avec beaucoup moins de pixels, avec des textures dégueulasses, mais c'est pas un problème, puisque vous ne le regardez pas. Et donc, intégrer un oculomètre dans un casque de réalité virtuelle, ça peut permettre de soulager considérablement la carte graphique, tout simplement parce qu'elle ne rend à la résolution maximale que ce que vous regardez et peut négliger tout le reste. Donc ça peut aboutir à des scènes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus réalistes pour une même puissance de calcul.
Et est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des choses sur le eye tracking, sur les consoles de jeux classiques, sur télé ? Tu vois, j'arrive à me dire, est-ce qu'il n'y a pas, en fonction de la zone de l'écran où tu regardes, bah, déjà, je ne sais pas, il y a des choses plus ou moins
différentes oui.
qui pourraient arriver.
Mais en théorie, oui. Mais si je prends mon propre... Oui, oui. Alors, en théorie, tu as tout à fait raison. Ça pourrait très bien être fait sur un écran. Alors, en réalité, quand je vois mon propre oculomètre et la manière dont il fonctionne, déjà, il faut être proche. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un oculomètre, en général, il y a des caméras infrarouges qui traquent la position des yeux et des émetteurs infrarouges, comme ça, et elles regardent la lumière qui réfléchit par les pupilles. Et en fait, il ne faut pas être trop loin. Ensuite, les caméras infrarouges sont souvent parasitées par la lumière du soleil assez facilement. Donc, si c'est éclairé, bon, c'est assez casse-gueule, quoi, si tu veux. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui regarde sa télé à, je sais pas moi, 1,5 m, 2 m, faire le tracking des yeux, c'est quasi impossible à l'heure actuelle. Hein. Il faut être beaucoup plus proche. Par contre, dans un casque de réalité virtuelle qui est complètement fermé et où on est très proche des yeux, là, c'est complètement, là, c'est très, ça peut vraiment être très sympa, ouais.
Bon, est-ce que tu pourrais nous rendre peut-être ça un peu plus concret avec des annonces éventuellement qui tournent autour de jeux qui exploiteraient la VR, Guillaume ?
Écoute, est-ce que
t'as
tu
vu la transition que j'ai essayé de faire
hein ? Ouais, mais c'est est-ce que tu connais Sword Art Online, toi ?
Non, du tout. Ça me dit rien du tout. Et en plus, on était en train d'en parler juste avant le début de l'enregistrement de l'épisode. Une obscure déconnexion Skype t'a coupé dans ton explication et du coup, je n'en sais pas plus que tout à l'heure. Alors, qu'en est-il ?
Bon, bah alors, Sword Art Online, ça parlera peut-être à certains auditeurs, surtout s'ils sont plus jeunes, mais bon, c'est un manga, enfin, c'est un, on va commencer par le début, c'est un light novel qui a eu énormément de succès, en fait, hein, qui est très très connu, qui a donné un animé, donc une série d'animation japonaise, qui a elle aussi eu énormément de succès, qui a été décliné en manga et en jeu vidéo, et en fait, c'est l'histoire d'un... Alors, ça peut paraître assez classique, c'est l'histoire d'un lycéen ou d'un collégien japonais qui joue à un jeu de rôle multijoueur qui s'appelle Sword Art Online, et qui, à un moment donné, est prisonnier du jeu. Voilà, il est prisonnier du jeu, il ne peut pas sortir, il ne peut pas se déconnecter. C'est un jeu en réalité virtuelle, alors c'est le futur, on est en 2022, et c'est un truc qui... passe par les nerfs, en fait. Hein. C'est un truc qui se branche directement sur le cerveau. Et donc, on est enfermé dans ce système de réalité virtuelle. Et donc, si tu veux, tous les protagonistes du manga et de l'anime sont enfermés là-dedans. Et donc, dans une certaine mesure, le contexte fantasy, les actes héroïques, tout ça, possède une réalité parce qu'ils ne peuvent pas se déconnecter. S'ils essayent de se déconnecter, ils meurent. Et s'ils meurent dans le jeu... Il meurt aussi, parce que voilà, c'est le créateur du jeu a décidé comme ça, enfin, voilà, c'est une sorte de battle royale. Enfin, bon, pourquoi je parle de ce truc-là ? Ça a l'air d'avoir rien à voir avec la sauce. C'est parce que, sorti de nulle part, IBM lui-même a fait une annonce au Japon, donc terre de naissance de Sword Art Online, hein, a fait une annonce comme quoi un MMORPG en réalité virtuelle basé sur Sword Art Online, qui s'appellerait Sword Art Online Beginning, allait être testé par 208 volontaires, 208 gens qui se seraient inscrits, quoi, voilà, 208 testeurs en alpha, et ça utiliserait la technologie IBM. Donc il semblerait qu'IBM veut utiliser Watson et son cloud SoftLayer pour immerger les gens dans un jeu vidéo à base de full body scan, c'est-à-dire apparemment vous seriez scanné et intégré dans le jeu tel quel. Ça pourrait être, donc c'est basé sur des Oculus Rift ou des Vive. On ne sait pas du tout comment on va pouvoir interagir avec le jeu, ni rien. L'écrivain, donc celui qui a écrit Sword Art Online, a dit que ça allait être complètement différent de tout ce qu'on avait, voilà, de tous les autres jeux vidéo qu'on jouait habituellement. Donc, c'est assez extraordinaire parce que c'est un petit peu comme si voilà, quoi, la réalité dépassait ou plutôt rattrapait la fiction. Puisque Sword Art Online se passe en 2022, et c'est vraiment très très marrant, c'est un clin d'œil assez marrant, en tout cas pour les fans, de voir un jeu Sword Art Online en réalité virtuelle, dès 2016, au Japon. Alors, c'est le 18 mars, du 18 au 20 mars, qu'on verra vraiment à quoi ça ressemble, et donc voilà, je regarderai ça pour voir qu'est-ce qu'IBM peut apporter à la réalité virtuelle.
On a hâte de voir ça, on a hâte de voir ça, Guillaume. On va passer au bonus, messieurs. Bonus pour cet épisode 27 de Tech Café. Guillaume, qu'est-ce que tu as dans ta besace?
Bah, comme je l'avais un petit peu dit déjà, au début, ouais, j'ai acheté un Omido pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors, je ne sais pas si j'en avais parlé, j'avais acheté un Arcos VR aussi, qui était aussi un casque de réalité virtuelle pour téléphone mobile, qui était une catastrophe, hein, faut quand même le dire. Elle était vraiment pas chère, c'était vraiment pas cher, et ça valait bien son prix, quoi. C'était assez inconfortable. Bon, le Omido, pour le coup, j'étais un peu sceptique. Je me suis dit, bon, c'est plus cher, il coûte 70 euros, neuf.
Ça a vraiment un nom de marque d'oreiller ou de,
ouais,
de matelas.
Ouais, ouais, exactement. C'est Dunlopilo, ça te rappelle Dunlopilo?
Ah oui, c'est ça.
Ouais, exactement. Et donc, du coup, bon, voilà, je l'ai acheté, j'ai essayé, et franchement, c'est pas mal, tu vois. Ben, honnêtement, pour 70 euros, c'est franchement pas mal. Donc, je rappelle le principe, hein, au cas où, c'est un casque de réalité virtuelle pour téléphone mobile. Donc, en fait, c'est un masque dans lequel il y a deux lentilles et dans lequel vous insérez votre téléphone mobile qui fait office d'écran, et c'est ça que vous regardez. Alors, sur votre téléphone mobile, effectivement, il faut des applis qui soient compatibles, hein, bien entendu. Donc, tout ce qui est Cardboard, par exemple, tout ça, c'est compatible. Il y a plein d'applis qui peuvent vous permettre de diffuser de la vidéo en relief ou de la vidéo carrément à 360 degrés, hein, pour être immergé. Et en fait, ça marche très bien. Et ce que j'aime bien dans cet Omido, en fait, ce que je trouve vraiment cool, c'est que, bon, d'une part, c'est plutôt de la bonne qualité. Enfin, c'est raisonnablement solide et bien fini. Ça s'adapte parfaitement à une grande variété de téléphones. C'est pas un Gear VR où il faut exactement un autre 4 parce que ça marche pas. Par exemple, hein, c'est vraiment, vous mettez le téléphone que vous avez et puis c'est bon. Bon, le téléphone, c'est optimisé pour 5 pouces. Donc si vous avez un peu moins, ça passe, si vous avez un peu plus, ça passe, mais si c'est trop gros ou trop petit, ça sera pas génial. Alors, moi j'ai un 5 pouces, bien entendu, il faut un téléphone qui soit assez puissant et qui ait un écran assez beau. Bon, moi j'ai un 1080p, mais bien entendu, si vous avez un Quad HD, ce n'est que mieux. Et en fait, ça va directement impacter la qualité de votre expérience. Mais cette expérience, elle est vraiment pas mal. Et donc, ce que j'aime bien, je disais sur cet Omido, c'est que vous avez pas, vous avez donc deux lentilles, et que ces lentilles, en fait, vous avez des petits cônes amovibles qui vous permettent de les régler, en fait, plus ou moins proches de vos yeux. Et c'est important parce que, tout simplement, pour les myopes ou pour les hypermétropes, vous avez des cônes différents, ce qui permet aux myopes, en tout cas dans certaines gammes de correction, d'utiliser ce casque sans lunettes de manière assez confortable, quoi. Donc, ils ont pensé aux myopes, ils ont pensé aux hypermétropes. Bien entendu, si vous avez une vue normale, vous pourrez aussi l'utiliser. Et donc, c'est pas mal. Et très honnêtement, quand on voit le prix des casques de réalité virtuelle, donc pour PC, là, pour peu que vous ayez un bon téléphone, au minimum Full HD, au minimum Quadricœur, qui est un peu bon, vous pouvez avoir des expériences de réalité virtuelle vraiment sympas, vraiment convaincantes, même si c'est le royal foutoir, hein, sur le Google Play, faut pas se mentir, mais quand même, c'est pas si mal, c'est une bonne introduction. Et puis, voilà, c'est 70 euros. Donc, si vous avez envie d'essayer un casque de réalité virtuelle pour smartphone pas trop cher, je vous déconseille tout simplement d'essayer les trucs chinois type Arcos VR, tout ça, qui sont vraiment pas chers, mais qui sont vraiment pas terribles. Le Cardboard, c'est du carton, ça reste du carton, hein, quand même. Donc, si vous voulez vraiment essayer et que vous êtes un peu sérieux, entre guillemets, là-dessus, prenez un Omido, je pense que c'est vraiment l'entrée de gamme, en fait. En dessous, c'est du jouet, et après, si ça vous plaît, essayez un Gear VR ou un Oculus, mais ça ne me regarde pas.
Mon fils est dans sa phase fan de dinosaures. Enfin, il a des phases qui se succèdent régulièrement, mais parmi celles-ci, il y a la phase fan des dinosaures. Et je vois qu'il y a une application qui te permet de visualiser des dinosaures autour de toi sur iOS. Ah, ça peut être un bon motif de test de l'Omido, ma foi. Merci Guillaume pour cette petite reco Omido. Dites-nous si vous craquez.
Et c'est une société française.
C'est français, c'est parfait, très bien. Cédric, qu'est-ce que tu as comme bonus? Je crois que toi, tu es dans ta phase chaîne YouTube. Tu nous en mets une par épisode. Qu'est-ce que tu nous as réservé cette fois-ci?
Ben, je me dis que voilà, il faut aussi regarder de ce côté-là. Il y a des contenus qui sont vachement chouettes. Ouais. Donc toujours dans, parce que moi je suis dans ma phase dinosaure, mais dans ma phase vulgarisation scientifique qui est assez intéressante.
Ah, c'est marrant, on a la même en même temps.
C'est ça. Et donc dans les petites chaînes que j'ai découvertes, qui est un peu plus confidentielle quoique, c'est la chaîne qui est issue du blog qui s'appelle Science Étonnante. La chaîne est éponyme. Qui vient de passer la barre des 100 000 abonnés, donc ça reste une petite chaîne par rapport à d'autres chaînes de vulgarisation scientifique, qui est vraiment à découvrir. Les vidéos sont pas forcément très très drôles. Enfin, il y a des points d'humour, mais enfin dans l'ensemble, c'est pas le rythme est pas effréné, le montage est plus light, mais c'est quelqu'un qui sait vraiment se mettre à la place se mettre à un niveau plus abordable, même malgré le fait qu'il soit chercheur sur une théorie parallèle à la théorie des cordes, donc enfin, on est quand même sur des choses assez pointues, et malgré ça il arrive à vous faire des vidéos rigolotes sur par exemple pourquoi quand vous mettez de l'eau dans un verre de Ricard ça se trouble, enfin, c'est intéressant de comprendre pourquoi.
Ou pourquoi les bulles de champagne,
ou, par exemple. Donc c'est des vidéos assez intéressantes. Il y en a d'autres sur l'intrication quantique, hein, donc ça peut être intéressant si ça vous intéresse aussi, mais regardez-les, c'est des formats assez courts, en général entre 10, allez, parfois un peu moins, jusqu'à 20 minutes, donc allez-y. Et puis, parce que c'est le fil rouge et qu'on en parle de plus en plus, Bruce Benhamran, sa dernière vidéo parle de réalité virtuelle et de dissonance, avec une illustration plutôt orientée boobs, donc vous pourrez, voilà, vu qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui, vous pourrez aller l'écouter, mais de se dire, voilà, dans un porno et réalité virtuelle, ça peut poser des problèmes si c'est mal calibré. Non, c'est intéressant.
C'était le quota de boobs en l'absence de Pierre-Olivier. Merci.
C'est vrai qu'on a été extrêmement sage. On était super sérieux là.
Ouais, c'est fou ça, c'est bizarre.
J'espère pas perdre de tipeur.
Ou en gagner. La qualité de ta connexion semble baisser, ou c'est peut-être la mienne, Guillaume. Moi, de mon côté, je voulais juste vous faire un petit feedback. Je vous avais dit il y a de ça quelques temps que j'avais acheté la tablette à 60 balles d'Amazon, la Fire 7 de génération donc 2015. Et à l'époque, je crois que j'avais envoyé des messages à Cédric parmi les nombreux messages que je lui envoie de harcèlement où il essaye de m'éclairer, le pauvre, sur des trucs que je comprends pas. Tu vois de quoi je veux parler, Cédric. J'avais demandé à l'époque, mais on peut pas foutre Cyanogen là-dessus, on peut pas foutre une version Android pure là-dessus. Et en fait, je me suis plongé dedans ces derniers jours et j'y suis enfin parvenu la semaine dernière. Oui, vous qui êtes habitués à router vos devices sous Android, vous allez vous foutre de moi, mais je suis content quand même d'y être parvenu, non sans mal. Et donc, j'ai installé Cyanogen Mode sur la Fire 7, là. Et en fait, c'est vachement marrant parce que alors, c'est pas un foudre de guerre, hein, clairement. Je pense même qu'elle est moins puissante. Je sais pas, vous me direz exactement ce qu'elle a sous le ventre, mais je pense qu'elle est même moins puissante que la dernière Nexus 7 qui était sortie. Et du coup, alors on sent que ça va pas d'une fluidité monstre, mais ça fonctionne quand même vachement bien. Et ça vous fait une petite tablette 7 pouces hyper polyvalente qui peut rendre énormément d'usages. Moi, je sais que j'avais offert à l'époque une Nexus 7 à ma mère, et elle s'en sert toujours parce qu'elle a pas forcément de smartphone comme nous pour gérer ses mails, gérer ses comptes, aller sur internet, etc., et regarder des recettes de cuisine. Eh ben, écoutez, à 60 balles, une Fire 7 sous Cyanogen Mode, ça fait carrément son job. Et puis en écho à ce bonus, je voulais juste mentionner le fait que j'ai essayé d'installer Windows 10 sur mon MacBook Air en double partition là avec Bootcamp, parce que d'habitude j'utilisais la virtualisation, mais là impossible de faire reconnaître les drivers. C'est un peu obscur, hein, je suis désolé, mais beaucoup vont comprendre évidemment, mais j'arrivais pas à faire reconnaître ma tablette avec les drivers que j'installais sur des machines Windows 10 virtualisées sur un MacBook Air. Alors je me suis galéré, j'ai été jusqu'à tester d'installer Windows 10 avec Bootcamp en lancement, en natif, donc sur mon MacBook Air, et impossible. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai jamais réussi à créer deux partitions. Bootcamp me met l'assistant Bootcamp me met un message d'erreur qui est très obscur. À croire que ça arrangerait bien Apple de pas arriver à être plus clair sur le pourquoi on n'arrive pas à partitionner son disque pour installer un autre OS en parallèle. En tout cas, j'ai été vachement vachement frustré et j'y suis toujours pas parvenu. Donc si vous avez des suggestions de solutions pour parvenir à découper la partition avec Bootcamp sur un MacBook Air quand il y a les messages d'erreur chelous, j'ai tout essayé, j'ai l'impression que j'ai écrémé le web sans succès. Donc si jamais vous avez des solutions, n'hésitez pas. Merci à vous qui nous écoutez aussi régulièrement dans Tech Café. Merci évidemment à vous qui tipez et qui participez au financement de l'émission. On continue à vous proposer une émission très régulièrement sur les infos sur les nouvelles technologies, et on peut donc continuer à dialoguer ensemble via les commentaires de l'émission, je pense que vous l'avez bien saisi, sur Twitter également avec techcafé_fr, parce qu'on n'avait pas de dispo le handle Tech Café sur Twitter. On a aussi la petite page Facebook, je pense que c'est aussi un canal qui peut être intéressant pour certains d'entre vous qui utilisaient Facebook. Moi j'y suis toute la journée et je pense que je suis peut-être pas le seul, donc si vous voulez dialoguer avec nous sur Facebook, c'est aussi possible. Si jamais vous voulez dialoguer avec Cédric, où est-ce qu'on peut te joindre, Cédric?
Sur Twitter essentiellement, et aussi sur Smart Dads, le site des papas d'aujourd'hui.
Et quant à toi, Guillaume, si jamais on a envie de te contacter pour te demander s'il est possible d'installer une backdoor sur son smartphone, où est-ce qu'on peut te contacter?
Mais je ne dévoile pas ce genre de secret. Pour qui me prenez-vous? Je ne suis pas la solde du gouvernement, moi.
C'est beau, Guillaume, c'est beau. Et quant à moi, c'est Guillaume Vendée. Vous me retrouvez notamment sur Twitter. Merci à vous donc, de votre fidélité. N'oubliez pas, si vous avez l'occasion aussi, de déposer une petite note, un petit commentaire sur l'iTunes Store. On va faire une grosse revue des avis parce que ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas fait, et on diffusera ça dans le prochain épisode sur tous vos commentaires. Donc n'hésitez pas, vous avez quelques jours devant vous pour aller déposer votre avis sur iTunes. À tout bientôt, merci à tous, ciao.
À bientôt.